Alors nous voici réunis pour notre deuxième partie d'après-midi. Nous allons commencer avec Frédéric Marie, le méauté, franciscain. Frédéric Marie est en train d'écrire sa thèse de doctorat, ici. Et Frédéric a été engagé, ou est engagé peut-être, est engagé en lien avec la non-violence dans les cercles de silence. Il a été engagé aussi dans des actions non-violentes à Hébron, en Palestine. Et pour découvrir un peu plus sa pensée, vous pourriez lire « Les messagers du festin, Dieu appelle par les pauvres » ou bien le petit livre qui vient de sortir sur François d'Assise et la miséricorde, « Servir sans dominer ». À toi la parole.
Merci, c'est gentil, j'ai une pensée, déjà ça encourage. Alors voilà, dans cette présentation, je voudrais interroger ce lien entre non-violence et grande pauvreté. Pour moi, personnellement, ce sont les deux mamelles auxquelles je nourris ma foi. Et en même temps, c'est deux éléments que j'ai beaucoup de mal à articuler concrètement dans mes engagements. Je vais le développer un petit peu. Alors ce lien entre la non-violence et la grande pauvreté, souvent on le prend comme une évidence. Mais je pense que, en fait, c'est pas si évident que ça du tout. Et en particulier, quand on va suivre le Père Joseph qui radicalise, nous disait Guénola, l'option pour le plus pauvre. En fait, je vais vous parler des mêmes thèmes que ce qu'on entend depuis ce matin, avec un éclairage différent qui est celui de l'éclairage plus du champ politique. Derrière non-violence, il y a ces aspects-là. Alors à propos des débuts du mouvement, le Père Joseph écrit « Pour déclencher le mouvement, il aura fallu voir et vivre ensemble le pire, la vie partagée. Les plus pauvres ignorés, abandonnés et même humiliés par les défenseurs de nouvelles libertés politiques. » Là, il y a un paradoxe. La question posée sera celle de savoir quelle est la place des plus pauvres dans nos combats pour la justice. Comment faisons-nous à partir d'eux? Ou au contraire, est-ce que nous ne risquons pas de les exclure dans nos combats avec l'intention de faire pour eux, au risque de faire sans eux, voire de faire contre eux? Vous voyez la pente qui va m'occuper. Alors je voudrais commencer par une citation du philosophe Jean-Marie Müller, qui a beaucoup travaillé les questions de non-violence. Je le cite. « Quand les spiritualités ont prêché la paix, elles ont le plus souvent fait appel au dialogue, celui-ci étant présenté comme la seule voie vers la réconciliation. Une telle démarche en vient à ignorer et à discréditer le conflit sous le prétexte qu'il divise les hommes au lieu de les unir. En réalité, ce qui divise les hommes, ce n'est ni le conflit ni la lutte, mais l'injustice, l'indifférence, la résignation et la lâcheté. La fonction du conflit est de créer les conditions de la justice qui seul peut réunir les hommes. » Et là, il a cette phrase, « En s'abstenant des conflits, les spiritualités ont méconnu la non-violence. » Une affirmation assez forte. Ce n'est pas le désir de l'unité qui crée l'unité, mais c'est le conflit qui révèle les exigences de la justice. Car comme le souligne Simone Veil, la philosophe, l'ordre social ne peut être qu'un équilibre de force. Et ça, quand on rentre dans le champ politique, on ne peut pas en faire abstraction. Du coup, comment les plus pauvres, qui sont justement fragiles dans ce rapport de force, peuvent-ils vraiment participer à la vie politique dans ce cas-là de conflictuel? Alors, le pape François est conscient de cet enjeu. Il a intitulé son message pour la journée de la paix en janvier 2007 « La non-violence, le style de la politique pour la paix ». Et il parle de non-violence active. Pas simplement un état d'esprit, on est gentil, et puis, mais actif. Il y a pourtant une difficulté, c'est que quand il parle du conflit, il a des mots très forts en disant par exemple la disponibilité, la non-violence, c'est la disponibilité à supporter le conflit, à le résoudre, à le transformer comme maillon d'un nouveau processus. Mais il en parle en citant Evangelii Gaudium, vers les numéros 227, il y a un paragraphe qui s'intitule « L'unité prévaut sur le conflit ». Oui, on est beaucoup dans une logique où d'accord, il y a le conflit, mais finalement, tout va être solutionné. Alors, un jour, comment, vous voyez les questions qui peuvent émerger de ça, comment est-ce construit cette unité-là? Et on touche ici le cœur du problème, c'est-à-dire que la dialectique unité-conflit, elle est fondamentale. Mais un accent trop fort et trop précoce sur l'unité va nous permettre de dépasser nos différences, mais au prix de quelle exclusion cachée? Ah, on est bien en fraternité, on est tous frères, et puis la porte, elle est fermée, et puis celui qui est là, finalement, il est exclu de notre fraternité. Ou au contraire, et là, on a plein d'exemples de philosophie politique, au contraire, on met l'accent sur la lutte, mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on maintient le fait que l'humanité est appelée à l'unité, au salut, ensemble, hein? Une autre façon de présenter les choses... Les chrétiens associent souvent la non-violence à la croix, en disant « le Christ est l'exemple même de la non-violence, puisque sur la croix, Jésus n'a pas usé de la violence, il a pardonné à ses bourreaux ». Gandhi fait observer, je le cite, « l'idée ne nous viendrait pas d'affirmer que la souris est clémente parce qu'elle se laisse dévorer par le chat ». Vous sentez la problématique? Il y a quand même des questions fondamentales qui se posent là. Je crois que la croix sauve. Je fais profession de catholicisme. La croix sauve. Mais comment on fait entrer la croix dans le champ politique? Voilà, c'est ces questions-là que je vais travailler. Alors, le père Joseph n'est pas un spécialiste de la non-violence, mais il a été invité à l'Arche de Lanza del Vasto, une communauté dans le sud de la France, qui s'est beaucoup impliqué dans les questions de l'Algérie, la torture en Algérie, les questions nucléaires également, plus récemment sur les questions d'OGM. Voilà. Alors c'est cette réflexion que je vais vous présenter, cette conférence que le père Joseph a donnée à l'Arche, et puis je proposerai une piste pour prolonger ça. On va travailler, encore une fois, on a beaucoup parlé de paradoxe, on a parlé d'écartèlement. Vous voyez, je ne vais pas résoudre l'écartèlement, je ne vais pas vous dire à la fin, ça y est, il n'y a plus de problème, mais simplement, par un éclairage différent, voilà, essayer de déplacer les choses pour nous faire entrer dans leur intelligence. La conférence sur laquelle je me base est parue dans « Refuser la misère, une pensée politique née de l'action ». La conférence s'intitule « Non-violence et quart-monde ». Alors, la non-violence des pauvres... Je vais partir d'un texte qui est dans « Les pauvres sont l'Église », dans lequel le père Joseph raconte l'histoire d'une famille qu'il a reçue dans le camp de Noisy. Il offre à une femme et à ses 5 enfants un demi-igloo en terre battue, c'était ses maisons, je ne sais même pas comment les appeler, dans lesquelles, voilà, du camp. La maman, quand elle voit ça, est effrayée. Le père Joseph écrit. Il dit à cette femme « Écoutez, madame, j'ai réfléchi. En regardant vos enfants, je me suis demandé ce qu'aurait fait ma mère. Elle aurait pris ses enfants, elle serait allée à la mairie, aurait occupé l'entrée avec ses gosses et elle aurait dit « Je ne partirai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas donné un logement. » En songeant à ma mère, j'avais compris qu'il n'y avait que cela à faire pour toutes les familles. Obliger la société à accueillir les pauvres. À cette famille, j'ai payé l'hôtel. Mais l'idée d'avoir à obliger la société à prendre ses responsabilités ne m'a plus quitté depuis ce soir-là. Je souligne deux points en tension dans cette histoire. Le père Joseph utilise deux fois l'expression « obliger ». Obliger la société. Il ne s'agit pas simplement de prier pour les riches. Il ne s'agit pas simplement de pardonner aux riches, aux nantis, à la société, à tout ce qu'on veut, à ses dirigeants, de demander des changements. Il s'agit à un moment donné d'obliger, de contraindre. Il y a une image très forte dans la non-violence, c'est cet homme qui se met en face d'une colonne de chars à Tiananmen. Il n'est pas resté sur le côté pour prier pour le conducteur. Il s'est mis devant cette colonne de chars. Voilà. Il y a quelque chose de très fort dans cette obligation. Je cite le père Joseph un peu plus loin. « La seule contestation adressée à d'autres n'a pas de force. » La dénonciation doit s'incarner, témoigner que la destruction de la misère est possible. Toutes les actions du mouvement au sein de la population sont apprentissage de droits pour les familles, pour le volontariat et pour la société. Elles dénoncent l'injustice en restituant la justice, en prouvant qu'elle est possible. Voilà, premier point, obliger la société. Deuxième point, toujours sur cette petite histoire. Le père Souli, le père Joseph, imagine l'action non violente que sa mère aurait posée. C'est un souhait, un rêve. En réalité, devant l'urgence, il a payé l'hôtel. Le père Joseph aurait pu aller avec cette famille à la mairie pour réclamer un logement, il ne l'a pas fait. Vous voyez la difficulté de concilier l'urgence face à cette famille concrète à reloger, et puis le temps nécessairement plus long du politique, de la conscientisation, etc. Comment on fait pour articuler ces deux temps ? Pour défaire la violence, Joseph Rezinski insiste sur le fait qu'il faut d'abord être témoin. On l'a déjà dit plusieurs fois, qu'il faut commencer par la reconnaître. Il faut vivre auprès des pauvres pour changer notre regard, pour percevoir que ce qui se montre comme justice pour nous qui sommes extérieurs, en fait est une violence pour ceux qui la subissent. Que ce qui se donne comme efficacité pour nous qui avons les moyens d'entrer dans des processus, etc., etc., en fait se transforme en abandon pour ceux qui n'ont pas les moyens de suivre. Le père Joseph note que face à ces violences, les personnes répondent elles-mêmes souvent par la violence, contre elles-mêmes, avec l'alcool, contre leurs enfants, contre l'entourage, même contre ceux qui sont là pour les aider. Et devant ces incohérences, ce manque de logique apparent, le père Joseph invite à changer de regard. Je le cite. Il bat sa femme, insulte son patron, menace le préposé au chômage, renvoie ses amis. Ce n'est pas un violent, c'est un furieux. Cette distinction entre la violence et la furie qui est posée par le père Joseph. Alors, dans la conférence à l'Arche de Lanza del Vasto, Joseph Rezinski distingue trois niveaux de non-violence. La non-violence esquive, la non-violence mansuétude, ou ce qu'il appelle affrontement non-violent individuel, la non-violence conscience commune. Alors tout d'abord, la non-violence esquive. Face aux violences, je cite à nouveau le père Joseph, « Il apparaît que les plus pauvres se gardent d'offrir une résistance ouverte quelconque à l'assistance sociale, aux prêtres ou au voisinage, par exemple. Au contraire, ils s'efforcent d'éviter l'affrontement en cherchant à brouiller les pistes. » Et là, il donne des exemples pour nous permettre de comprendre. L'exemple d'une maman à qui on reproche de ne pas envoyer son enfant à l'école et qui répond « Mais au moins, il est bien nourri. » Et on déplace le sujet. Ou des parents qui envoient leur enfant chez l'huissier pour promettre qu'ils vont payer. Cette non-violence esquive qui est autant de moyens d'éviter l'affrontement. Alors, il le dit lui-même, c'est clair que cette non-violence, elle peut être destructrice de la personne. J'ai fait lire mon texte à un frère qui a toute sa vie traîné dans la non-violence et je me suis fait engueuler de façon assez non-violente, c'est-à-dire assez musclée, mais il m'a dit « c'est pas de la non-violence, c'est de la lâcheté, etc. » Et effectivement, j'ai trouvé aucune trace dans les canons de la non-violence pour dire que ce genre de non-violence esquive était positive. Parce que, effectivement, Gandhi, Müller, etc., l'associent tout de suite à de la lâcheté, à une stratégie pour éviter de confronter la violence et donc de la défaire. Je ne me suis pas défendu, j'ai simplement dit « écoute, ouvre tes oreilles » et puis voilà, le père Joseph nous dit ça, et puis voilà, prenons-le comme ça. Première non-violence, non-violence esquive. Voilà, plus positif mais insuffisante, hein, d'après le père Joseph. Deuxième aspect, les plus pauvres ont conscience que les riches ne peuvent pas connaître leur situation. On y a fait allusion précédemment. Parce que les riches, ils ont un travail, ils ont de l'argent. Il est parfois déroutant de voir comment les familles peuvent se déchirer et puis se retrouver. Peuvent aider un voisin qui les a dénoncés à la police, par exemple, sans apparemment en garder de souvenirs ou d'amertume après. C'est une phrase qu'on entend beaucoup, moi que j'entends beaucoup dans le corpus que je travaille, le corpus de Pierre Dangle pour ma thèse, on est obligé de faire la paix si l'on veut vivre. Et si vous avez regardé les kakémonos du Sapel dans le hall, combien de fois on retrouve ce pardon qu'on est obligé de donner. Le pardon, ce n'est pas une option pour eux. Ils sont acculés au pardon. Voilà, ça rejoint ce que disait Étienne sur il n'y a pas de mépris des riches. On peut même dire que cette mansuétude est un moyen de provoquer la mansuétude des autres. Car, je cite le Père Joseph, « pour sauver votre dignité, pour demeurer respectable à vos propres yeux et aux yeux de vos enfants, vous avez besoin de vous rendre utile, d'être apprécié et considéré par vos voisins. » Les pauvres ne disent pas « mes droits ont été piétinés », ils disent « voyez ce que nous souffrons et aidez-nous ». Et du coup, le Père Joseph insiste beaucoup là-dessus, les pauvres ne haïssent pas les riches. Est-ce qu'ils les aiment? Je pense qu'il y a certains textes où il dit qu'ils aiment les riches. En tout cas, ils aspirent à entrer dans une communion. C'est ce moteur-là qui est important. Alors vous voyez, ce constat d'une non-violence mansuétude, il est difficile à entendre dans un cadre idéologique marxiste de lutte des classes. Ah ben non, il faut pendre le dernier patron avec les intestins du dernier curé. Enfin, vous voyez, on n'est pas dans cette même, on n'est pas dans cette même logique. Vous voyez. Mais le c'est pas la perspective de ce que comprend le Père Joseph du Quart-Monde. Troisième moment de cette non-violence, c'est que tant que cette quête de paix reste individuelle, elle peut être dangereuse. Car, je cite à nouveau le Père Joseph, « elle maintient le statu quo des faux rapports entre les riches et les pauvres en provoquant des gestes de pitié qui visent un soulagement immédiat. Soupe populaire, vêtements, et puis payer l'hôtel à la famille. » Je veux dire, si j'étais un peu perfide avec le Père Joseph. Vous voyez ? Je cite à nouveau, « la quête personnelle de paix est dangereuse pour les pauvres. » La non-violence qui change le monde est celle qui entraîne les familles à prendre position ensemble. Christophe Pichon, ce matin, nous parlait de l'importance du « être ensemble ». C'est ce troisième aspect de la non-violence. Face à la tentation de la non-violence, de la lutte violente, pardon, à nouveau citation du Père Joseph, les équipes d'ATD Quart-Monde sont témoins que devant ces possibilités d'entrer dans un certain type de lutte, les plus pauvres, après un temps d'angoisse, ont dit non. Non, nous voulons que les choses changent, mais pas comme cela. Sous-entendu, pas de façon violente. Donc l'entrée dans un « nous », dans un peuple, permet une seconde prise de conscience. Je cite à nouveau, « nous voulons le changement, mais nous ne le voulons pas par la haine, l'hostilité ou la violence. » Donc l'entrée dans un peuple devient ainsi entrer dans une lutte non violente. La difficulté, vous le sentez, c'est que comment, où est-ce qu'on peut... Déjà ? Pardon. Jusqu'où on peut aller dans ce « nous » qui doit à la fois s'exposer dans le champ politique, donc tenir dans un conflit, et en même temps s'élargir aux plus pauvres. Vous voyez, il y a deux mouvements qui semblent contradictoires. Est-ce qu'on n'arrive pas inévitablement à un moment donné à laisser les plus forts aller de l'avant, à être dans une logique qui serait une logique d'écrémage, c'est-à-dire on prend juste le dessus de la crème, les pauvres qui peuvent s'en sortir, qui peuvent parler, on les met, et puis on laisse tous ceux qui ne peuvent pas derrière. On entendait ça dans le texte d'hier, c'est le tout qu'il faut prendre. Et c'est pas simplement quelques-uns, c'est le tout qu'il faut prendre. Dans « Les pauvres sont l'Église », le journaliste pose une question au Père Joseph. Après le mai 68, le mouvement organise la fête des droits de l'homme. N'abandonniez-vous pas la ligne de conduite de ne pas entreprendre de combat hors de portée des familles? Elle ne pouvait pas avoir acquis le sens politique nécessaire à ce genre de lutte. Et Joseph Rezinski répond d'une façon... En fait, il répond pas. Il invite à ne pas se focaliser sur le développement de l'action politique, mais se recentre sur sa racine. Il dit « La question n'est peut-être pas de savoir jusqu'où nous allons dans la démarche politique, mais en quoi nous demeurons vrillés à l'espérance d'un peuple ? Quelles sont nos garanties pour rester dans la grandeur au niveau des aspirations essentielles ?» Alors, on aimerait bien savoir quelles sont ces garanties dont parle le Père Joseph. Et là, il renvoie à des relations interpersonnelles, ce qu'il appelle des réponses d'homme à homme, à la vie partagée, mais il n'en dit pas plus sur ce que peut signifier cette conscience commune, cet être ensemble. En tout cas, il s'agit toujours de se remettre à l'écoute de la pensée des plus pauvres, de la soutenir, de la faire valoir dans des enceintes où elle n'est pas reçue. L'action non violente n'est donc pas pour lui une stratégie ponctuelle qui vise un objectif précis, l'établissement d'un droit, la marche du sel pour Gandhi, voilà, quelque chose d'hyper précis qui va amener des changements plus larges. Mais son action non violente, elle est un retour constant vers les plus pauvres pour continuer à entendre, à susciter la parole de celui qui n'est pas encore présent. Je le cite, d'aller révéler leur force aux plus pauvres. Et on sent bien à nouveau qu'il y a ces deux mouvements à concilier. Je voudrais aborder maintenant et pour conclure ma dernière partie. Alors je précise que je voudrais mettre un panneau peinture fraîche parce que c'est des choses que je découvre, que je travaille et que voilà qui sont encore assez étranges pour moi. Donc je vous partage, c'est de l'ordre de la recherche. En termes théologiques, je propose d'entendre la parole des pauvres comme une parole apocalyptique qui s'articule à une parole prophétique. Alors, je m'explique. Il y a Marie-Vonne qui rigole déjà parce que je la fais. Je prends une séance dans laquelle elle était impliquée. Je m'explique. Bah, tu rigoles, donc je m'explique. Lors d'une séance du groupe de Pierre d'Angle, le thème de l'échange est Noël. Alors, on lit le texte de l'évangile de Luc, et puis, étape par étape, chacun réagit. Quand on arrive à l'épisode où Jésus et Marie ne trouvent pas de place, à l'auberge, un débat s'installe dans le groupe. Les alliés, donc animateurs, des gens qui n'ont pas connu la misère, les alliés insistent pour affirmer que Joseph et Marie ont été exclus. Patrick, un militant, est tout aussi catégorique, non, ils n'ont pas été exclus. Une différence, vous voyez, d'herméneutique du texte, là. Et pendant tout l'échange, ces deux compréhensions du texte ne vont pas se rejoindre. Les alliés vont insister pour relire le texte et prouver que Marie et Joseph ont été exclus. Patrick ne lâche pas le morceau, mais il refusera toujours de s'inscrire dans cette logique. Ils n'ont pas été exclus. Alors, la rencontre, elle se termine sur cette incompréhension. Il faut reprendre le texte et l'analyser un petit peu de façon précise pour comprendre ce que Patrick a en tête. Si Joseph et Marie avaient été exclus, alors Jésus serait né à l'étable par accident, suite à la volonté maligne d'êtres humains. Or, Dieu a choisi, au sens fort, de naître dans l'étable. C'est lui qui choisit la dernière place. L'étable n'est pas le lieu d'une naissance faute de mieux. Il aurait préféré naître à l'auberge, mais bon, il en a été exclu. C'est un choix de Dieu de rejoindre les plus exclus. L'insistance des alliés sur l'exclusion dont aurait été victime la Sainte Famille répond à une exigence d'engagement politique. On le comprend bien, s'il y a une injustice, il faut qu'une action soit possible. À partir du moment où on dit, comme Patrick, non, c'est Dieu qui choisit, comment on mène une action politique à partir de ça? Et on est bien embêté. Du coup, vous voyez, c'est cette articulation que je... Et on retrouve ça dans d'autres textes. Je crois que c'est vraiment un trait important. Dans d'autres textes, par exemple, un texte toujours de la Pierre d'Angle, autour de la fuite en Égypte. Les alliés vont dire, regardez Jésus qui est un migrant, donc qui associe la figure de Jésus aux migrants, et puis ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les migrants, vous voyez qu'ils sont dans cette logique politique, qui est une logique prophétique, comme je vais l'expliquer après. Les militants disent, ah mais non, ils sont en sécurité, Jésus est avec eux. Vous voyez? C'est deux lignes d'interprétation qui ne se rejoignent pas. Et si Jésus est si les migrants sont en sécurité parce que Jésus est avec eux, alors on remballe nos projets politiques, il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc vous voyez. Alors moi je propose de relire ça, et je vais conclure, de relire ça à partir de la dialectique entre apocalypse et prophétie. Dans l'apocalypse, on est dans une logique du voir, juger, agir. On est ici et maintenant, on regarde derrière et puis on va agir. Les militants sont dans une logique de présence de Dieu. Et ça, c'est l'Apocalypse. Je vous renverrai au chapitre de ma thèse pour développer tout ça, parce que sinon ça va. Voilà. Donc, en tout cas, ça donne des pistes aussi pour penser le sensus fidei de l'Église. Qu'est-ce que c'est que ce sensus fidei qui fait que tous les fidèles ont cette intelligence de la foi qui est donnée par l'Esprit Saint? En articulant le magistère des alliés et des militants, en articulant un magistère prophétique et un magistère apocalyptique. Je conclus avec cette phrase du Père Joseph, qui pour moi est le cœur. Il affirme, en parlant du peuple du quart-monde, « C'est dans sa vulnérabilité que réside sa force. » C'est dans sa vulnérabilité que réside sa force. Et par ce paradoxe, on est en fait reconduit au mystère de la croix, au mystère de l'action non violente. Et je pense que les plus pauvres, justement, c'est une autre façon de dire tout ce qu'on a dit, mais les plus pauvres sont sans doute l'axe de ce paradoxe impossible qui pourtant est fécond même dans le champ politique. Merci.